Radio Kapi. Oh, Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi. Il est 18h à Kinshasa. Voici un nouveau journal. Psychose en ce moment dans le groupement de Djomba au Nord Kivu où la population retourne timidement. Les FARDC mènent les opérations de ratissage autour de la cité de Bounagana après avoir stoppé l'avancée des rebelles du M23. Les députés provinciaux de l'Équateur soutiennent le développement de 145 territoires. Pour cela, ils s'apprêtent à mener un contrôle sans complaisance des services publics de l'État pour contrer les antivaleurs qui mettraient en péril ce projet du président Félix Tshisekedi. Notre invité, c'est le vice-président de la commission financière du Conseil économique et social. Walter Mukendi parle de la régulation de la circulation et de la reconnaissance de la contravention routière. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Noël Mokondo. Au Nord Kivu, la situation reste imprévisible dans le groupement de Djomba où la psychose persiste dans les villages où l'on observe un retour timide de la population. Les FARDC poursuivent le ratissage autour de la cité de Bounagana après avoir stoppé hier l'avancée des rebelles du M23. Le point de la situation avec vous, Gabriel Ouamenia.
Bien qu'une accalmie apparente s'observe depuis hier mercredi dans les zones de combat qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 depuis le début de cette semaine, la situation sur les lignes de front reste imprévisible. Les acteurs coutumiers et ceux de la société civile de Rutshuru redoutent la reprise imminente des combats entre les deux belligérants qui consolident chacun ses positions. Les rebelles qui se sont retirés mardi de la zone de Tchengerero, présentement sous contrôle de l'armée, se sont fondus dans la nature sans connaître exactement leur objectif et la direction qu'ils ont prise dans la zone. Aux alentours de la cité de Bounagana, où les FARDC les ont repoussés mardi dernier, les acteurs coutumiers de Djomba s'interrogent également sur leur destination et appellent la population et l'armée à la vigilance. Cette stratégie adoptée par les M23 qui maintient toujours ses positions conquises à Tchanzu et Runyonyi ne laisse aucun doute que ces rebelles qui se seraient concentrés actuellement sur la colline de Boussoussa, près de la cité de Tchengerero, s'y reprennent l'armée par des combats ouverts sur plusieurs fronts précises, les sources concordantes dans les territoires de Rutshuru. Rappelons que le retour timide de la population est observé surtout dans les villages de Rwanguba, Bounagana et Kinyamaoro. Goma, Gabriel Ouameya, Radio Kapi.
Non loin de là, le diocèse catholique de Bounia a organisé mercredi une marche pacifique de la paix et une messe d'action de grâce au terrain de l'Époville pour honorer la mémoire des victimes des atrocités des groupes armés dans l'Ituri. Dans son homélie, l'évêque du diocèse a interpellé le gouvernement congolais et ses principaux partenaires à multiplier les efforts pour restaurer la paix dans cette province. Reportage à Bounia d'Ezekiel Mouzalia.
Des milliers de fidèles catholiques de toutes les paroisses de la ville, sans distinction des tribus ou des communautés, ont répondu à cet appel de l'évêque du diocèse de Bounia. Les manifestants portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Nous exigeons la paix, l'État congolais doit neutraliser les forces négatives, les Ituriens doivent se solidariser des auteurs de nos souffrances ou encore la paix est un droit ». Selon l'évêque du diocèse catholique de Bounia, l'objectif de cette marche était d'interpeller le gouvernement à assumer sa responsabilité pour imposer la paix en Ituri, mais aussi appeler les groupes armés à cesser les violences en tuant leurs propres frères. Le Monseigneur Dieudonné Ouringi.
Il n'y a pas eu une mesure pour frapper fort, pour dire maintenant ça suffit. On ne peut pas tuer la population civile innocente là comme ça. Un civil ne peut pas se permettre de prendre les armes et commencer à tuer. Est-ce qu'il y a une loi qui permet ça? Donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités en main. Il faut arrêter les morts.
Le point de chute de cette caravane de paix était le terrain Époville de Bounia où une messe a été organisée pour honorer la mémoire de tous les Congolais qui sont déjà morts pendant les atrocités des groupes armés en Ituri. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
On en vient maintenant à la politique. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale vient de démissionner ce jeudi de ses fonctions. Jean-Marc Kabunda. Kabunda affirme dans un tweet avoir déposé sa démission au bureau de la Chambre basse du Parlement à Kinshasa. Cette démission avait déjà été annoncée sur Twitter au lendemain de l'attaque de sa résidence à Kinshasa par des éléments de la garde républicaine. Depuis lors, Jean-Marc Kabunda Kabunda avait été désavoué par sa famille politique et a même quitté le pays pour des soins médicaux en Europe où il se trouve actuellement. À l'Équateur, pendant ces temps, l'Assemblée provinciale a levé l'option de soutenir le projet de développement de 145 territoires. Annonce faite mercredi par la présidente, l'organe délibérant, c'était à l'ouverture de la session de mars. Pour y parvenir, les députés provinciaux de l'Équateur s'apprêtent à mener un contrôle sans complaisance des services public de l'État pour prévenir les antivaleurs et qui mettraient en péril l'application de ce projet du président Félix Tshisekedi Tshilombo. En Mbandaka, Paul-Richard Malengela.
La présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Marie-Josée Molebo, s'est d'abord félicitée de l'atelier des députés provinciaux organisé du 19 au 21 mars dernier à Kinshasa à l'initiative du chef de l'État. Pour elle, le projet des 145 territoires est une première qui vise le développement à la base, d'où la demande qu'elle a lancée à ses collègues pour le soutien, l'accompagnement, le suivi et l'appropriation de ce projet. Face au détournement récurrent des fonds publics et à d'autres antivaleurs dans la province, Marie-Josée Molebo a mis en garde les mandataires ou gestionnaires de l'État qui s'hasarderaient au détournement des fonds alloués à l'exécution du dit projet pour la population. Déjà à la faveur de la session de mars consacrée au contrôle parlementaire, elle a annoncé un contrôle sérieux des services provinciaux en vue de l'amélioration. Par ailleurs, la présidente de l'organe délibérant a loué la collaboration actuelle entre les deux institutions provinciales ayant ramené la calmie à l'Équateur. Cependant, elle a plaidé pour le paiement rapide des policiers qui cumulent à ces jours 3 mois sans salaire. Conséquence, a-t-elle conclu, il y a démotivation des policiers donnant lieu à la multiplication des cas de criminalité sur la population. Mbandaka, prochain Malengue, la radio Okapi.
Dans un autre chapitre, au Kwilu, plus de 1200 élèves des 5 écoles primaires et secondaires d'Idiofa Centre étudient ce jour-ci sous des arbres depuis près de 2 mois. Les bâtiments de leurs écoles ont été détruits par la pluie. Le chef de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Cyril Iloloubé, appelle à l'aide pour permettre aux élèves de poursuivre les enseignements. À Bandundouville, Irène Boma.
1223, c'est le nombre total de ces élèves qui étudient sous des gros arbres dans la sous-division de l'EPST Idiofa Centre au Kwilu. Les sous-préfets de cette juridiction précisent que cette situation a débuté depuis le 4 mars lorsque leurs écoles ont été complètement détruites par la pluie. Les écoles concernées sont notamment l'Institut ASEC dans la commune rurale d'Idiofa et à Obala, il y a l'Institut Salaken, l'EPD Idiofa, l'Institut Bosembode et l'EP Joaise. Cyril Iloloubé déplore les conditions dans lesquelles ses élèves étudient car, selon lui, ils sont exposés. Il lance un cri d'alarme à toute personne de bonne volonté pour leur venir en aide.
Situation avilissante qui expose les apprenants à des intempéries. Une mélopée, un appel vibrant aux personnes sensibles, aux personnes de bonne volonté pour un secours vraiment illico en vue de pallier cette défaillance catastrophique. Nous avons des moyens aussi limités, les structures de bonne volonté d'intervenir.
Signalons que déjà quelques matériaux de construction tels que les tôles ont été remis à ces écoles par le député national Boris Mboukou et le sénateur Sacré Lancel. Cependant, Cyril Iloloubé estime que cela est encore insuffisant pour couvrir tous les besoins. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Inauguration hier ici à Kinshasa du centre d'appel Allo École au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cette structure a été créée pour gérer quotidiennement les plaintes relevantes de ce secteur. La cérémonie a été présidée par le ministre Tony Mwamba Kazadi, le compte-rendu de Jean-Francis Mouya.
Dans son allocution, le ministre Tony Mwamba Kazadi affirme que grâce à ce dispositif, le ministère de l'EPST marque un pas de plus vers la bonne gouvernance du système éducatif. Il permet l'exercice du principe de la redevabilité et une gestion saine du secteur de l'enseignement.
Aujourd'hui, comme un marathonien à l'esprit compétiteur et au mental des gagnants, je marque stratégiquement la pause, non pas pour dormir sur mes lauriers, mais pour répondre aux mêmes devoirs en faveur de la gratuité de l'enseignement par le lancement d'Allo École. les centres d'appel du ministère de l'EPST en vue de l'exercice de la redevabilité, principe intrinsèque de la gouvernance. Ce dispositif nous place au cœur même de la pratique du mode partenarial où tout ce qui est fait par notre ministère pour ses bénéficiaires est fait pour et avec eux. Si nous sommes dans la bonne voie, les bénéficiaires, nous les ferons savoir. Et si par mégarde, notre impact n'est pas celui que nous avons envisagé, nous avons la possibilité, par ces mécanismes, d'en être informés par les bénéficiaires.
Notez que le 10 centre d'appel est joignable gratuitement pour tous les résidents en RDC à travers le numéro vert 178.
Retournons maintenant au Grand Nord Kivu où seuls 20 responsables des services publics de l'État sur 270 sont des femmes. C'est ce qu'indique en tout cas le rapport de monitoring du réseau pour les droits de l'homme. Cette ONG demande par conséquent au gouvernement congolais de respecter la loi sur la parité homme-femme lors des nominations des autorités dans les différents services de l'État. À Butembo, la correspondance de Florida Kahambu.
D'après les réseaux pour les droits de l'homme, REDO, ce monitoring a été effectué du 2 au 30 mars dans la région de Beni Butembo Lubero, dans le cadre de la célébration du mois dédié à la lutte pour les droits de la femme. Et dans les rapports qui en découlent, les REDO s'indignent du fait que, dans la territoriale, aucune femme ne figure parmi les 24 autorités nommées pour gérer l'état de siège dans le Grand Nord Kivu. Dans le secteur de la justice, par exemple, les rapports notent 3 femmes seulement sur 38 magistrats civils des parquets et tribunaux. Cependant, du côté des parquets et tribunaux militaires, il n'y a aucune femme sur les 8 magistrats. Le rapport souligne aussi qu'il n'y a aucune femme médecin chef de zone au niveau de l'antenne de la division provinciale de la santé de Butembo. Même situation du côté de la police et de l'armée dans les villes de Butembo et Beni, ainsi que dans les territoires de Beni et Lubero. Cette faible présence des femmes est également constatée dans d'autres domaines, notamment au niveau de la province éducationnelle de l'EPST Nord Kivu 2, des différents bureaux de services étatiques et dans les domaines fonciers. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Parlons maintenant du paiement de l'impôt sur les propriétés bâties et non bâties ici à Kinshasa. Un moratoire est accordé jusqu'au 20 avril prochain. Par ailleurs, le taux d'imposition au mètre carré est également revu à la baisse. C'est ce qui ressort en tout cas d'une rencontre tenue à Kinshasa entre le gouverneur Jean Tindingo Bila, c'était hier, et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Était de la partie le ministre provincial des Finances et le responsable de la direction de recettes de Kinshasa, Dejirka. Explication de Babel Mpongo Massimango.
C'est la délégation de la FEC avec à sa tête son administrateur délégué Kimo Nabonongue qui a sollicité obtenir ce moratoire pour tous les assujettis. La date butoir de paiement de cet impôt sur les superficies des propriétés bâties et non bâties dans la ville de Kinshasa était initialement fixée à ce jeudi 31 mars. La FEC a également pu obtenir un allègement du taux d'imposition. Le montant au mètre carré sur les superficies a été légèrement revu à la baisse selon les catégories. Un autre arrêté sera signé par le ministre provincial des Finances Jean Goyimvonzi afin de tenir compte de ces modifications. On l'écoute.
Nous avons trouvé un compromis. Nous avons poussé l'échéance jusqu'au 20 avril. Le temps que le nouveau arrêté que nous allons mettre en place soit publié par le journal officiel et de permettre aussi aux assujettis de s'acquitter de leurs devoirs civils. On n'a pas débattu sur tout l'arrêté, seulement le taux de quelques superficies non bâties et bâties. Parce que en son temps, l'ancien arrêté, on avait presque le même taux partout, mais nous avons différencié maintenant.
La FEC a à cette occasion expliqué au gouverneur Jean Tindingo Bila les difficultés des opérateurs économiques issus en grande partie de la période de récession liée à la COVID-19 au niveau mondial. Notez que l'arrêté du ministre provincial des Finances fixant le taux de cet impôt a été signé le 1er décembre 2021.
Merci Babel Mpongo Massimango pour ces précisions. Partons maintenant pour le Maniema où l'ONG Initiative Plus vient de vider les fosses septiques et désinfecter 17 toilettes de la prison centrale de Kindu. Les travaux qui ont duré 15 jours ont été financés par l'ONG de Olive Lembe Kabila à travers sa coordination provinciale. Les ouvrages ont été remis hier aux autorités pénitentiaires à Kindu. Florence Kizalou.
Selon les autorités pénitentiaires, c'est après 10 ans que ces fosses septiques viennent d'être vidées. Sentiment de gratitude pour le directeur de la prison, Paul Ilunga.
Maman Olive, en collaboration avec Paul, ont essayé de vider, de nettoyer, de pulvériser toutes les toilettes. Et maintenant, ça va. Il y a au moins 17 toilettes qu'ils ont pu travailler.
Même sentiment pour les prisonniers.
Nous les prisonniers vivons avec les caca comme les animaux. Vraiment, maman Olive, merci, merci pour ton acte.
Nous les prisonniers, nous disons merci pour l'acte d'époque et pour venir dégager nos WC.
Vraiment, nous les femmes, nous sommes sauvées. Nous faisons caca dans les sachets. Aujourd'hui, nous sommes sauvés.
Les coordonnateurs de IPOLK demandent aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Ousseni Pungu.
Nous, comme coordination, nous sommes satisfaits parce que nous arrivons à la fin des travaux. Nous remettons officiellement aux bénéficiaires ce que nous demandons aux prisonniers de faire un bon usage qui puisse se protéger. C'est avec l'appui financier de Mama Olive Lem que nous arrivons à réaliser ces travaux.
La prison centrale de Kindu héberge aujourd'hui au moins 500 détenus selon les sources pénitentiaires. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce jeudi à l'unanimité pour la création en Somalie d'une nouvelle force de maintien de la paix de l'Union africaine, ATMIS. Cette force va succéder à la MISOM qui compte 20 000 militaires, policiers et civils après de nombreux mois d'échanges constructifs. New York a donc adopté cette résolution aujourd'hui selon les Émirats arabes unis qui président en mars le Conseil de sécurité. Il s'agit dorénavant de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Les forces russes ne se retirent pas, mais se repositionnent en Ukraine et l'OTAN s'attend à des offensives complémentaires de la part de Moscou. Déclaration faite ce jeudi après-midi par le secrétaire général de l'Alliance qui a été cité par l'AFP.
L'invité.
Notre invité, c'est le vice-président de la Commission économique et financière du Conseil économique et social, Walter Mukendi, parle de la régulation de la circulation et de la renaissance de la contravention routière. Il s'entretient avec Alain Rung.
Conseiller Walter Mukendi, bonjour.
Bonjour, monsieur Alain.
Commencez par nous expliquer l'intitulé de cet avis.
Bon. Voyez-vous, on dit régulation de la circulation routière et renaissance de la contravention. Ça veut dire que lorsque les usagers de route, piétons, automobilistes, automoteurs, tout le monde qui fait usage de la route est soumis à un certain nombre de dispositions réglementaires, notamment le code de la route et des tests réglementaires portant fixation de droits et taxes à l'initiative de la police. Et c'est pour dire que dans la circulation, il faut une réglementation qui fait que la conduite soit exemplaire sur la voie publique. Toutes les fautes ou les délits qui sont commis sur la voie routière doivent être sanctionnés. Et lorsqu'elles sont sanctionnées, on applique la contravention. La contravention, ça fait une amende qui fait la contrepartie d'une faute commise sur la route ou d'une faute dans la circulation. Mais alors, la République démocratique du Congo n'a jamais mis en valeur ou en évidence, ou plutôt prendre une rigueur dans l'application de cette contravention dans la circulation routière. Le Conseil économique est parti d'une réflexion qui est partie de l'observation faite de par les États du monde pour voir comment eux régulent leur circulation, comment eux appliquent leur contravention pour décider cet avis qui est destiné aux décideurs des institutions délibératives de notre pays pour que les choses soient autrement que maintenant.
Qu'est-ce qui fait qu'une institution comme le Conseil économique et social puisse s'intéresser à la circulation routière, aux contraventions? Quel est le rapport?
Un rapport d'abord sur le plan social. Lorsqu'il y a des accidents, lorsqu'il y a un coût qui impacte les activités économiques et sociales, ça invite les conseils à s'intéresser. Mais aussi parce que nous sommes une institution qui avise sur le plan économique, il est très important que nous puissions intéresser les gouvernements à savoir qu'il y a beaucoup d'argent à gagner sur la circulation routière par la voie de la contravention, de recettes dites non fiscales. Il y en a beaucoup que l'État ne capte pas pour le ramener à la fois au trésor public et aux entités territoriales décentralisées. C'est en fait beaucoup d'argent. Les conseils venus pour arrêter les dysfonctionnements et les contre-performances économiques. Voyez-vous que là, c'est une piste de beaucoup d'argent que l'État n'a pas réglementé de façon à prendre le maximum de recettes non fiscales qui circulent sur la voie publique et congèrent parfois de façon pas très recommandable.
Nous voyons par exemple sur nos routes des roulages, interpeller un conducteur, l'arrêter et puis ils saisissent les documents, il s'ensuit une conversation en informel. C'est assez rare que ça arrive jusqu'au bureau et le conducteur donne un peu d'argent à l'agent de police et puis c'est fini, on lui retourne ses documents et puis il est parti.
C'est déjà ceci qui est de fait extra-réglementaire, qui viole en effet les codes de la route. Tout cet argent qui part dans des poches de policiers ne devait pas l'être si l'État était très regardant à ces propos. Et donc, nous voulons que la rigueur soit très appliquée, qu'on puisse même avoir un système de gestion rationnelle des collectes de toutes ces recettes non fiscales générées par la contravention, y compris que l'État doit instaurer désormais un système digital centralisé pour capter toutes ces recettes, à la fois découlant de contravention, comme je le disais depuis tout à l'heure, et découlant également des immatriculations et des permis de conduire et tous les signes distinctifs qui sont d'application sur la voie routière.
Les avis du Conseil économique et social ne sont pas coercitifs, ils sont à prendre ou à laisser. Pensez-vous que le gouvernement en tiendra compte?
Monsieur Alain, quand vous êtes conseiller de quelqu'un, vous ne l'obligez pas d'accepter vos conseils. C'est ça la difficulté pratique que nos avis peuvent souffrir. C'est-à-dire, ça n'a pas ce caractère d'imposition. Mais parce que le Conseil économique et social est une institution constitutionnellement instituée, le décideur a l'obligation de voir nos avis et de le mettre en application, donc d'en faire exploitation utile.
Qu'est-ce que vous répondez à certains compatriotes qui pensent que le Conseil économique et social est une institution inutile, budgétivore, qu'il faudrait simplement supprimer?
Déjà, c'est un constat d'ignorance populaire, malheureusement. Les conseils jouent un grand rôle. Tous les avis du Conseil économique et social, si vous prenez le temps de le pénétrer, il y en a depuis l'existence du Conseil plus d'une trentaine, offrent à la gouvernance de cet État des pistes de solution à beaucoup de problèmes qui étaient mal jurés.
Conseiller Walter Mukendi, je vous dis merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le vice-président de la commission financière du Conseil économique et social. Walter Mukendi était interviewé par Alain Irungmouchige. Et c'est la fin de cette édition d'information qui a été coordonnée par Élisée Tikota Mwamboui sous la supervision éditoriale de Pelekipe Lamondo. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.